Les clips, ouais, du coup, ça raconte l'histoire. Moi, j'ai toute l'histoire dans ma tête. Et après, avec les clips, les musiques, je donne des petits bouts de l'histoire à chaque fois.
Ça fait plusieurs épisodes.
C'est ça.
J'ai un clip en tête, c'est le Final Boss.
Ouais.
C'est ça, où ça, justement, ça met en image ce que tu viens de nous raconter. Du petit gars qui affronte Son Goku, des Pokémon, Mario et tout.
Ouais, bah Final Boss, en fait, c'est Nahelec qui est dans les enfers et qui veut sortir des enfers. Et donc, il combat des ennemis là-bas et... Les ennemis, c'est des faux personnages de manga, en fait, qui ont été mis là par un démon pour l'empêcher de sortir.
Par rapport, on revient un peu à ta DA, ta direction artistique, cet univers que tu as créé, un peu pop culture, un peu animation. Moi, j'adore tout ça. Je suis fan. Si j'ai envie d'avoir, je sais pas, soit un fond d'écran sur mon téléphone ou alors un tableau avec une œuvre de ta création, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut acheter un tableau, un poster ou je ne sais quoi? Est-ce que t'as fait un espèce de...
Que dans les clips.
Okay.
Après, en plus, ben, du coup, faire intégrer des personnages de manga, du coup, il faut demander des autorisations si je veux les vendre, les commercialiser.
Ah ouais, ok.
Il faut que je demande des licences, des choses comme ça qu'on n'a pas fait encore. On a des projets en cours, donc il y aura des choses comme ça, mais pour le moment, c'est que dans les clips.
Un petit comic, c'est un manga peut-être, Nahelec?
C'est un projet. Aussi.
Ah ah, je veux bien. On manquera pas de vous tenir au courant, ça c'est sûr et certain. Nahelec, qui est mon invité ici sur Voltage, bah, tu fais partie vraiment de la radio Voltage parce que les auditeurs ont l'habitude de t'entendre, notamment le morceau que t'as fait avec les duos italiens Marnik et Vnaï, Boys in Paris. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est fait cette collab?
Ce morceau, c'était un morceau, on voulait faire une cover en fait, je parlais avec Marnik et on voulait faire une cover depuis un moment et en fait un son très club en fait, c'est un son que beaucoup de DJ jouent, moi je joue en fait l'original de temps en temps dans mes sets parce que c'est un morceau que tout le monde connaît,
ouais.
Mais l'original est très très hip-hop en fait, donc on a voulu faire une version très club pour pouvoir la jouer dans mes sets. Beaucoup de mes sons, donc je vais raconter une histoire, mais sont aussi faits pour mes sets. Parce que quand je joue DJ ou quand je suis sur scène, faut des sons qui tabassent un petit peu.
Mais d'ailleurs Nahelec, regarde, on t'a préparé des platines, tu nous as préparé un mix exclusif pour Voltage, ça sera tout à l'heure, il y aura du Boys in Paris et j'espère du Home Alone aussi. J'ai bien l'impression que oui, restez avec nous, Nahelec est mon invité ici sur Voltage Dance Music.
Voltage. Voltage.
Voltage Dance Music avec mon invité d'aujourd'hui, Nahelec, l'un des meilleurs DJ au monde. Je le dis, il fait partie des 100 meilleurs DJ au monde. Il y a 3 Français dans le top 100. Il y a David Guetta, DJ Snake et Nahelec. Et pourtant, tu es une star immense, notamment en Asie, à Macao, à Tokyo, aussi aux États-Unis, dans le monde entier, et un petit peu moins en France. Comment ça se fait? Je ne comprends pas.
Je suis très vite parti de la France.
Hein. Ouais.
Comme je le disais tout à l'heure, en 2010, je suis parti en échange universitaire au Japon, et j'ai vraiment kiffé le Japon de fou. Et je suis resté là-bas pendant presque 4 ans. Et puis après le Japon, je suis allé à Taïwan pendant 2 ans, puis en Australie pendant 2 ans aussi. Donc tous mes projets musicaux ont été créés là-bas. Je tournais beaucoup en Asie et je revenais en France l'été pour voir ma famille et mes amis. Mais donc du coup, j'ai beaucoup moins fait de choses en France jusqu'à ce qu'il y a 2 ans pendant le Covid où je suis rentré en France justement. J'ai vraiment commencé à développer des choses ici.
Et avec peut-être des projets un peu plus en France, des dates, des gros concerts.
Ouais, bah là j'ai plusieurs festivals et dates prévu en France cette année. Je vais jouer à Léger en mars, le carnaval de Caen aussi.
Ok.
À Castelsarrasin, un festival.
Oh, je connais, mes parents habitent à côté.
C'est vrai?
Ouais.
J'avais jamais entendu parler de la ville avant d'être.
Bah, moi je pensais que personne connaissait en fait.
Bah voilà.
Oh, trop bien. Nahelec. Eh bien tiens d'ailleurs, parce que c'est pas ton vrai prénom, c'est ça que je me demandais aussi. Pourquoi, tant que tu t'appelles Kevin, on peut le dire, pourquoi Nahelec?
Bah, comme je le disais en fait, avec ma musique, je voulais vraiment me séparer Nahelec de Kevin.
Ok.
Et raconter une histoire, donc il fallait aussi un nom. Et bah, je suis breton, donc j'ai essayé de créer un nouveau nom, un nom de scène qui sonnait un petit peu breton.
Ok.
Qui n'a jamais été utilisé par personne. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Nahelec.
Ça veut pas dire quelque chose en particulier,
Nahelec? Non, ça veut rien dire.
C'est un prénom breton.
Je l'ai vraiment créé de...
C'est trop bien.
C'est même pas un prénom breton, c'est quelque chose que j'ai créé du coup. Et je voulais aussi que personne ne l'ait jamais utilisé avant. Donc j'avais créé 2-3 noms. Et puis je les ai tous mis sur Google et Nailek, il y avait zéro résultat.
Okay.
Zéro résultat sur Google, c'est-à-dire que personne l'a fait.
Ouais. Allez,
go.
Donc comme ça, paf, on prend. C'est bien parce que tu fais partie des meilleurs DJ au monde, je l'ai dit. Et pourtant, tu renies pas, enfin, tu gardes en toi tes racines bretonnes et avec fierté, quoi.
Oui.
C'est comme dans n'importe quelle manifestation, t'as toujours un drapeau breton.
C'est ça.
Obligatoire. Tu es connu à l'international, je le répète et je le dis, t'as mixé à Macao, à Tokyo, etc. Est-ce que on fait la fête pareil de l'autre côté du monde qu'en France? Ou alors c'est différent?
Non, c'est différent selon les pays. Donc déjà, la façon dont on fait la fête, il y a certains pays où les gens boivent plus et dansent moins. Il y a d'autres pays où tout le monde est en train de sauter partout et où c'est la folie à chaque fois. Ça dépend vraiment des pays, je pense, et de la culture. Pareil, le type de musique que les gens écoutent, hein, est vraiment différent. Donc des fois, quand je vais dans certains pays, je pense à l'Inde par exemple, j'ai fait une tournée de 7 dates en Inde où j'ai dû adapter un petit peu mes sets parce que culturellement, la musique que je passais d'habitude et qui marche très bien même dans le reste de l'Asie avait un petit peu plus de mal du coup en Inde.
Ok, c'est où que tu préfères mixer? Est-ce que t'as un endroit, un pays ou un festival ou...
J'aime beaucoup Tokyo parce que c'est là que j'ai commencé, il y a des clubs incroyables là-bas. Après en France ça fait plaisir aussi parce que bah, du coup je suis tout le temps parti, j'ai eu du succès à l'étranger et
ouais.
Mixer de là où je viens c'est vraiment cool.
Bon, en tout cas on est trop content de te recevoir ici sur Voltage. Parmi les 100 meilleurs DJ au monde, Nailek est mon invité sur Voltage. Dans le top 100, je le répète et je le redis, il n'y a que 3 français, David Guetta, Snake et Nailek. Et d'ailleurs Nailek, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour la suite?
Beaucoup de nouvelles musiques. Je travaille, j'ai déjà fini pas mal de sons qui vont sortir bientôt et je travaille sur plein d'autres musiques. Pas mal d'audiovisuel aussi, du coup beaucoup de nouveaux clips, je veux continuer à raconter l'histoire de Nailek. Et puis après, comme on le disait tout à l'heure, sûrement un manga ou une BD, un jeu vidéo,
ah ouais.
Vraiment des choses pour développer l'univers de Nailek.
Ça serait trop bien. Écoute, on ne manquera pas de vous tenir au courant de tous les futurs projets de Nailek. Nailek, les platines sont à toi. On te laisse prendre possession de l'antenne de Voltage ici à Paris, partout en Ile-de-France. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci à toi.
Voltage. Dance Music.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur Voltage.
Charme, je suis tombé sur ton corps, mes larmes s'embellissent. Mais ton âme m'a trompé quand tes lèvres m'ont mis en délire. Je vois ton visage rien qu'à moitié. Le vrai se cache comme par pitié. Attends me tuer comme ça. Je voudrais seulement être à côté de toi. Tu sais que ça fait mal de te laisser. Toi, est-ce que ça te plaît? Arrête de me tuer comme ça. Je voudrais seulement t'avoir tout près de moi. Tu sais que les mois effacent la peine. Et on fait comme ceux qui s'aiment. Tu
est votre radio, on vous donne directement notre numéro. 07 80 80 64 64. C'est le numéro Voltage. Écrivez-nous, laissez-nous un vocal et partagez-nous toutes vos envies en direct. Voltage. Dance Music. 07 80 80 64 64. Et Voltage reste encore une fois votre radio. Voltage. Voltage, Dance Music.
Bienvenue sur Voltage. Je suis une intelligence artificielle. Chaque nuit, nous passons un moment ensemble à découvrir la musique mais aussi les meilleurs moments d'interview de la radio. Comme ce moment.
Que du bonheur à ce qu'il paraît, avec Mélina sur Voltage.
Alors être parent, c'est beau, hein, Maud, c'est beau, mais c'est pas toujours facile de gérer nos gremlins. Et parfois, on doit même ruser pour faire en sorte que cette jolie aventure qu'est la parentalité reste justement une jolie aventure.
Alors oui, être parent, hein, c'est très beau, hein, je confirme, mais c'est vrai que parfois, on doit user de stratagèmes pour se sortir de situations délicates. Et par exemple, moi, je vais me planquer aux toilettes.
Ouais, je pense qu'on le fait tous.
Voilà, donc j'imagine que toi, avec 4 enfants, t'as parfois dû ruser pour te sortir de situations délicates. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits stratagèmes, justement?
Non, mais je veux pas donner de mauvaises idées aux parents, et puis après, on va me juger.
Mais non, on l'a tous fait.
Bon, allez, je veux bien te faire quelques confessions. À écouter, à l'abri des enfants, je précise. Alors moi, tu vois, par exemple, quand mes enfants se réveillent tôt, mais que tous les stores sont baissés à la maison, eh ben, je leur dis que c'est encore la nuit. Comme ça, je peux gratter quelques heures de sommeil.
Mais moi, ça marche pas.
Bah, moi, ça marche.
Oh, bah, c'est cool.
Il faut essayer. Et aussi, quand c'est l'heure de l'histoire du soir et que j'ai la flemme de tout lire, et ben j'avoue que je saute 4 ou 5 pages pour gagner du temps.
Moi, je saute une ligne sur deux des fois.
Ah, c'est pas mal ça aussi. Et... pas mal la technique. Et quand je mange un bonbon ou un chocolat, et ben je dis à mes enfants que ça pique ou que c'est pas bon, comme ça je peux le manger en paix.
Alors moi, ça marche pas parce qu'elles connaissent le goût. Mais
ah,
c'est pas
ouais.
mal.
Ah ouais. Mais attends, moi j'en ai 4, hein, donc parfois ça a marché, parfois non. Et autre chose aussi, j'avoue que j'attends que mes enfants soient au lit pour manger tous les trucs qu'ils aiment parce que j'ai pas envie de partager.
Ah, mais ça, c'est la base.
Je sais que c'est pas bien, mais ça fait du bien parfois, tu vois, de te manger ton petit chocolat égoïstement quand ils dorment. Aussi, quand un de mes enfants se réveille en pleurant la nuit, que je l'entends et pas mon mari, alors désolé à tous les papas qui nous écoutent, j'avoue que je fais semblant de pas les entendre pour que mon mari se lève. Alors, mais je suis sûre qu'il fait pareil. Et s'il vous plaît, ne me jugez pas parce que je suis sûre que je dois pas être la seule.
Alors, moi, j'ai déjà essayé, mais vraiment, il dort. Donc ça marche pas. Vraiment.
Ah, d'accord. Bah, moi, non. Enfin, tu sais, je lui mets des petits coups de coude comme
ça. Ça arrive.
Ouais. Non, mais ça va, j'y vais. Je fais pas ça hyper fort, mais non, mais parce que sinon, il entend pas.
Ouais.
Non, mais moi, j'aimerais bien ne pas entendre aussi.
Et t'en as une dernière aussi?
J'en ai une dernière, c'est vrai. Et bah, parfois, j'avoue que je dis à ma fille que la télé est cassée pour ne pas avoir écouté Libéré, délivré pour la 100 000e fois de la journée. Non, parce que c'est bon.
Je l'ai déjà fait aussi.
Ah, non, mais moi, je peux plus. Ah, mais je me suis lâchée là.
Mais non, mais tu dis, regarde, moi, c'est pareil. Et puis, c'est ce qu'on aime.
Ouais, mais bon. En tout cas, j'espère que vous avez pris des notes, hein, Maud. Ouais. Parce que je me suis pas grillée pour rien là. Hein. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous en voulez d'autres. Et n'oubliez pas, c'est que du bonheur. Enfin, à ce qui paraît.
Je suis une intelligence artificielle et je suis toujours avec vous chaque nuit sur Voltage pour écouter votre musique préférée.
Sorry, and the liquor made me. Your mama never tell you how to treat a lady. By this time tomorrow, you gon' really hate me. Bet you wish you never played me. You took her in a bed, you got no respect. Why did you expect? Now I burn this house down. To the left, I'ma to the next. I'ma get my sweet revenge. Tell me how you lie so easily.
Vous êtes sur Voltage avec moi, une intelligence artificielle. Installez-vous bien pour découvrir les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Bonjour Eric Tolenado, Olivier Nakache. Alors, vous attaquez deux nouveaux thèmes dans ce film, Une année difficile. Vous êtes des vrais fans de cinéma. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur de refaire quelque chose qui a déjà été fait dans le cinéma?
Voilà, c'est là tu appuies, cher ami, sur une peur mais chronique. Et obsessionnel, c'est vraiment. Je pense qu'on a éliminé tellement de sujets parce qu'on s'est dit ça a déjà été fait, bien fait, même pas bien fait, mais on veut pas aller sur les terrains. Au contraire, quitte à se planter, on préfère aller défricher des terrains plutôt non explorés, ce qui a été le cas ces dernières années, heureusement pour nous.
Tu vois, là, par exemple, on avait envie de faire un film sur une poupée, Barbie, un truc comme ça. Finalement, ça a été fait, puis on va pas le faire. En plus, ça a pas marché.
Attends, on avait dit aux gens, habillez-vous en rose et tout, ouais. On avait tout, le truc. Ouais.
On va passer à autre chose.
Alors, après Barbie, du coup, est-ce que c'est le surendettement ou l'écologie qui a pris le dessus au début sur une année
c'est
difficile.
La bombe atomique. évidemment, c'est les deux sujets qui nous intéressaient. Et évidemment, on avait intuitivement la sensation qu'il y avait une complémentarité possible, un pont possible entre les deux, puisque il y a un rapport entre le plus et le moins, le vide et le plein. Et on a travaillé ces sujets-là en corrélation, en réfléchissant à qu'est-ce que ça pouvait imbriquer. Et c'est la comédie qui est venue se poser comme solution à essayer d'expliquer. À mettre en relation des situations justement entre des gens qui sont que dans la consommation, la surconsommation et qui n'ont que faire de l'avenir de la planète et des gens qui se préoccupent beaucoup moins d'eux-mêmes et qui, en gros, des gens qui veulent se sauver eux-mêmes dans la vie et d'autres qui veulent sauver le monde. Et c'est ce paradoxe-là et ce parallèle-là qu'on a voulu mettre en scène à travers une comédie un peu à l'italienne, un peu grinçante comme ça.
Alors, vous avez collaboré avec des associations militantes pour la préparation du film. Est-ce que vous avez fait la même démarche avec des personnes en situation de surendettement?
Tout à fait.
Ouais.
On a été accueillis par une association qui s'appelle Crésus, voilà, qui essaye d'aider, gérée par des bénévoles, qui essaye d'aider des gens en situation de surendettement et de précarité. Donc oui, on a fait des ateliers d'éducation budgétaire pour aller à la rencontre des gens jusqu'au parcours de la Banque de France. On a suivi des gens qui avaient vraiment des soucis de surendettement. Parce qu'en France, il faut savoir qu'on a le droit à une deuxième chance. On peut se faire effacer les dettes par la Banque de France. Donc c'est la constitution d'un dossier. C'est tout un protocole et on est rentré dans les rouages de ce protocole.
Ouais, peut-être beaucoup d'auditeurs qui vont le découvrir du coup
avec
le film. Alors, quand on débute dans le cinéma, on vit forcément des années parfois difficiles. Quand on est étudiant aussi, est-ce que ça a été votre cas? Et si oui, quel regard est-ce que vous avez sur ces années-là aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles vous ont appris?
Déjà, nous, on les a vécues à deux, ensemble, à l'époque, puisqu'on s'est rencontrés à l'époque où on était justement étudiants et dans la post-adolescence. On a fait pas mal de petits boulots, on a vécu des années... Alors, ces années difficiles, elles sont assez formatrices. Pour moi, je pense que ce serait arrivé d'un coup et on aurait pu faire des films plus tôt, on aurait été moins mature pour aborder le sujet. Il faut qu'il y ait eu du désir, il faut même qu'il y ait eu de la frustration, à mon avis, pour que on soit content de monter de temps en temps sur le podium quand un film fonctionne. pour le coup, on a réussi à transformer à peu près toutes nos expériences en film. On a travaillé dans des mariages, on a fait le sens de la fête, on a travaillé dans des colonies de vacances, on a fait nos jours heureux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme
Hors normes,
on a côtoyé des associations qui s'occupaient d'enfants autistes, on a même travaillé pour eux et on a fait hors normes. Donc je pense que c'est des années sandwich de où justement on se nourrit de sandwich d'ailleurs, mais où on se nourrit de matière qui va à un moment ou un autre sortir en fiction.
Alors, dès l'intro, vous mettez beaucoup de rythme, ça va vite, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par exemple dans Hors Normes avec Une Course Poursuite. Tout au long du film, on va avoir beaucoup de décors différents, on imagine beaucoup de moyens en termes de production et d'autorisation de tournage, ça a dû être un défi pour certains endroits, je pense au Trocadéro ou la Banque de France.
Oui, c'est un défi, ce film n'a été qu'une succession de défis à relever, et c'est tant mieux parce que on aime aller dans des nouveaux territoires et se mettre en danger et relever des défis. Oui, en production, ça a été un film compliqué à échafauder.
Alors, est-ce que ça vous manquait un petit peu après en thérapie, ou c'est quand même beaucoup plus calme en termes de
très franchement, de plan? Ça nous manquait, ouais, parce que effectivement, on a passé 4 ans à écrire des scènes de chant contre chant entre deux personnes. C'était fabuleux. Il fallait tout passer par le jeu et l'intériorité. Mais il était temps qu'on retrouve la vitalité. Puis c'est surtout aussi le post-Covid. Cette espèce de restriction de nombre de gens nous a sûrement donné envie d'écrire une scène avec 300 figurants dès le début.
Alors on a Pio Marmaille et Jonathan Cohen au casting, qui sont deux grosses personnalités. En gérer un sur un plateau, c'est ok, mais les deux en même temps, comment est-ce que ça s'est passé? Ça a été simple?
C'est le bordel. Ah, pas se mentir, c'est le bordel. Ils sont deux fortes personnalités. Il faut les canaliser, on n'était pas trop de deux. On peut dire les choses comme ça.
Après, oui, ce sont quand même de grands pros.
Oui.
De grands pros. Donc, si vous voulez, ils savent aussi l'enjeu d'une journée de tournage et de scène à tourner, du travail à abattre. Mais c'est vrai qu'on nommait pas avec eux la déconne. Il y a de la déconne, et du coup c'est à nous de la canaliser, de la transformer, et pour que ça soit salutaire pour le film. C'est un échange.
Et du coup, comme Jonathan, il a déjà été réalisateur, est-ce qu'il comprend mieux vos attentes parfois? Est-ce qu'il a été force de proposition à certains moments?
Oh, il peut proposer, de temps en temps on prend, de temps en temps on prend pas, mais oui, il est plutôt créatif, et il y a quelques petits moments de brillance dans le film aussi, qui sont des fulgurances qui lui sont arrivées, ou alors qu'on a eu comme idée au dernier moment. En tout cas, il est très réactif, c'est un peu comme un sportif, on lui envoie le ballon, il peut le renvoyer tout de suite. Mais ceci dit, Pio aussi, il a l'air moins comme ça, mais il peut être très, très vif et très réactif aussi.
Alors, vous avez évoqué la comédie italienne tout à l'heure. Il y a un film de Dino Rizzi qui s'intitule Une vie difficile. En plus du titre, on y trouve plusieurs similitudes avec des prises de position un petit peu radicales dans le film. Une histoire d'amour qui semble impossible. Vous sentez-vous proche de la comédie italienne avec du coup son mélange de cruauté humaine, la cruauté sociale et la tendresse? On mélange tout ça?
Oui, on se sent proche au point de se revendiquer d'influence de comédie italienne tout au long des film, on en a parlé, mais c'est peut-être le plus italien celui-ci, puisque il prend tout le monde et il met tout dans un sac, et il met une sorte de dose de noirceur et de pessimisme qui se transforme avec la comédie en petits moments d'aération réguliers, et il dénonce et il aborde des sujets complexes avec légèreté. C'est tout l'art des Italiens de cette époque. Et puis alors, La vie difficile dont vous parlez a été le début de ce titre qui est arrivé corroboré par le petit montage que les gens découvriront au début du film, qui explique aussi, pour ceux qui ne le savent pas et qui voudront le savoir, pourquoi nous avons choisi ce titre.
Alors, il y a une grosse attente lors de la sortie de vos films. Comment est-ce que vous la gérez, cette attente? Est-ce que vous êtes plutôt du genre stressé ou du genre à en profiter?
Les deux. En fait, on est stressé. Les deux, mon colonel. On est stressé, on est névrosé, on a peur, on doute. Mais en même temps, on veut aussi en profiter. C'est pour ça qu'on fait une grande tournée dans toute la France avec le plus de dates possible pour accompagner le film jusqu'au 18 octobre, la date de la sortie. Donc voilà, on en profite, on va à la rencontre des gens, et en même temps, ça nous permet peut-être soit de nous rassurer un petit peu ou de nous calmer.
Ah, justement, vous parlez des doutes. Alors, quelle part de vos propres doutes et certitudes est-ce que vous avez intégré dans le film? Est-ce que des fois vous refusez un discours un peu trop radical, peut-être dans les dialogues ou dans une partie du scénario? Et du coup, sur ce duo, de quel personnage vous sentez-vous le plus proche?
On s'en proche, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'on s'en proche de tous les personnages parce qu'on on les a fait tous parler. C'est un peu un théâtre de marionnettes, un film. Donc, quand Noémie se met à dire, on est là, avec un mégaphone dans la main, on est la première génération à subir vraiment les effets du changement climatique et peut-être les derniers à agir. Je me sens proche de ce qu'elle raconte parce que c'est vrai qu'on nous parlait de ça à échéance de 2050 et qu'on voit que l'été qu'on vient de passer nous prouve que ça y est, c'est arrivé plus vite que prévu. Mais je me sens proche des losers magnifiques, d'un gars. Je me dis, si j'étais dans sa situation, j'ai toujours pensé, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des objets qu'on perd à la sécurité quand on perd un parfum, un déodorant. Je me suis dit, mais si j'étais dans la merde, j'irais tout de suite aller les chercher pour en faire quelque chose. Donc, tous les personnages nous intéressent.
Même le chien empaillé.
Même le chien empaillé. tous les personnages nous intéressent. On les défend tous. Et c'est tous un peu nous-mêmes et pas du tout. Et c'est ça la force de l'écriture, c'est qu'on peut mettre de soi et mettre de quelque chose de totalement différent. Et c'est le mélange que ça donne à la fin qui peut être savoureux ou pas. C'est vous qui jugerez.
Alors, du coup, en vous rapprochant de différentes associations pour préparer le film, vous côtoyez des gens, du coup, qui vont être dans le milieu écolo, des gens qui vont être en surendettement. Est-ce que c'est pas trop compliqué derrière dans l'écriture d'être, entre guillemets, moqueur pour faire rire les gens avec ce genre de sujet, sans essayer de les blesser, sans les blesser à aucun moment dans le film?
Mais nous, le mot moqueur, on l'a enlevé de notre vocabulaire, parce que ça n'a jamais été un rire qui nous a intéressé, la moquerie. C'est, depuis l'école, les moqueurs, on leur pète la gueule. Mm-hmm. C'est pas de la moquerie. C'est ce que nous, on trouve beaucoup plus noble, c'est le fait de rire de soi, l'autodérision. Et ça, au contraire, c'est peut-être le comble de l'élégance et de l'intelligence. C'est d'arriver à avoir le recul pour pouvoir se dire que on est finalement dans un théâtre humain, comme je disais, de marionnettes, et que c'est en se moquant de soi qu'on arrive un tout petit peu à avancer. Donc on a toujours fait ça. Si on l'avait eu peur, alors on aurait dit, mais on se moque des gens en fauteuil roulant, puisque dans Intouchables, il y a 1000 vannes sur la façon qu'on a d'être en fauteuil. Et pareil, on n'aurait pas abordé un sujet comme l'autisme en racontant des choses à droite et à gauche. On ne moque pas, on rit de situations pour mieux les appréhender, pour mieux les vivre et pour mieux les digérer. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais le mot moqueur, quand on se moque, c'est qu'on se situe au-dessus d'une situation. J'ai pas l'impression et qu'on a la prétention de se situer au-dessus de quoi que ce soit. Mais je comprends la question, évidemment.
Alors du coup, si jamais demain il y avait un monde parfait, s'il y avait, admettons, une année facile, est-ce qu'on pourrait encore faire des comédies s'il n'y avait plus de problème?
Non, parce que la comédie, elle se nourrit du drame, et que le drame et la comédie sont voisins, comme l'amour et la haine, comme beaucoup de choses qui sont antagonistes. Donc non, mais peut-être.
Tu penses qu'on va avoir des années faciles là?
Non, c'était juste pour.
Non, mais c'est vrai qu'on se nourrit de la difficulté à vivre, et mais en même temps, la comédie humaine, la comédie de la vie, c'est encore une fois, c'est d'essayer d'avoir du recul et de rire de soi. Donc, tant qu'on pourra le faire, alors l'air sera respirable. Là, au moment où on pourra plus le faire, il faudra faire attention. Et n'oublions jamais que dans les dictatures, les premiers qui sont atteints, c'est les comiques, ceux qui veulent justement rire des puissants ou du pouvoir. Il faut garder cette capacité à rire et à s'analyser et à être en introspection.
Et la toute petite dernière, vous préférez être aimé ou humé?
Les deux, mon colonel.
Moi, je pense que quand on hume bien, quand on hume bien, quand on hume bien quelqu'un, c'est qu'on a de l'humour.
Sur Voltage, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là.
Please me.
Sur Voltage, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble nos podcasts. Comme celui-ci.
Le warm-up avec Robin sur Voltage. Dance Music.
Ah, enfin, je vous attendais depuis un moment les gars, Arnaud et Pierre de Bon Entendeur sont avec nous dans le warm-up Voltage. Comment ça va les gars ?
Ça va très bien et toi ?
Bah très heureux à chaque fois de vous entendre à l'antenne, mais cette fois-ci de vous recevoir carrément dans le studio. Les gars, on a pour habitude de commencer le warm-up avec un medley. Donc pour vous, petite piqûre de rappel, Bon Entendeur, c'est ça. Quand on entend ça, on sent détendu, on a l'impression d'être en terrasse avec un grand verre au bord de la mer, ça fait du bien. Hein.
Écoute, c'est un super medley. On a constaté les petits remixes que vous avez fait dans le truc, c'est cool.
J'aurais bien aimé que ce soit moi, mais ce n'est pas moi. Je rends ce qui est à César. C'est Bess, notre producteur qui se charge des medleys, et qui prend
bien,
toujours un plaisir.
Bah, franchement, il bosse bien.
D'écouter vos morceaux.
Vous pouvez le féliciter.
Avec plaisir, on ira le voir tout à l'heure. Ça fait du bien d'entendre ça, comme je disais. On sent vraiment détendu. On a l'impression d'être tranquille avec un sunset et tout, un verre à la main. C'est ça, Bon Entendeur?
Écoute, c'est peut-être un objectif un peu inavoué de faire de la musique qui rend un peu heureux. En tout cas, je pense que nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut que ça marche sur nous déjà.
Ouais.
Et ce qu'on essaie de faire quand on produit de la musique, c'est de créer des émotions. Et donc, écoute, si ça te rend heureux et si ça rend heureux les gens qui nous écoutent, on est très content.
Mais c'est ça, c'est vraiment un son, j'allais dire d'été, mais pas qu'on écoute seulement en été, parce que même l'hiver ou quand il fait moche ou quoi, ça permet de se détendre ou même de kiffer en soirée ou pendant un apéro ou quoi.
Ouais, c'est ça, c'est de la musique qui se légère, qui se prend pas la tête, agréable à écouter quelle que soit la saison. Et on l'imagine un peu comme ça, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a réfléchi à notre troisième album. On voulait une musique qui nous fasse voyager, qui nous rappelle des souvenirs, de doux souvenirs, et c'est comme ça qu'on l'a conçu. Ouais.
Et ce troisième album, on en parle avec Fio Maravilla, avec Nicoletta. Troisième album qui est sorti le 29 mars. Il est là, il est beau, il est tout stylé. D'ailleurs, vous êtes.
Il est tout chaud, il sort du four.
Bien les chemises, hein, au passage. Fio Maravilla, donc un classique de Nicoletta. Dans les albums précédents, c'est vrai que vous avez aussi revisité, par exemple, Le Temps est bon. Il y avait aussi du Nino Ferrer. Et plein d'autres classiques des années 70. Comment vous choisissez les morceaux que vous remixez?
Écoute, je vais répondre un peu comme la question d'avant. C'est qu'il faut que ça nous touche dans un premier temps à nous. Et écoute, là, sur le process pour cet album, on a peut-être shortlisté 150 titres dans un premier temps, en se disant bon, il y a peut-être un truc à faire, on aime bien une mélodie, on aime bien une guitare, une basse, une batterie, une voix tout simplement, une énergie sur un morceau. Et en fait, il y a un espèce d'entonnoir qui se fait un peu naturellement au fur et à mesure des tests qu'on peut faire, et pour se retrouver sur cet album final où au final il y a assez peu de revisites de morceaux, et c'est beaucoup de prod original, mais bon voilà, Fio Maravilla par exemple, que tu viens de passer, fait partie de ces morceaux pour lesquels on a eu un énorme coup de cœur. Et on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire en le retravaillant.
Et vous le connaissez ce morceau, vous l'avez découvert peut-être chez un disquaire, en farfouillant sur internet, je ne sais pas.
On connaissait l'original de George Benn en 72. Et moi personnellement, je sais pas si Arnaud c'était le cas, je ne connaissais pas la reprise de Nicoletta en 73, elle a fait ça un an après. Et on l'a découvert il y a pas longtemps, et tout de suite on a eu un énorme coup de cœur général. Et on s'est dit bon les gars, il faut absolument tenter un truc là-dessus, parce que il nous rend fou ce morceau quoi, il est trop cool.
Bah, il est vraiment.
Et on est content de l'avoir fait, on a eu raison de l'avoir fait du coup.
Eh ben vous avez eu totalement raison, l'album Rivage, donc comme je le disais, qui est sorti le 29 mars, c'est carrément un voyage cet album, je trouve peut-être un peu plus que les autres albums, il y a vraiment le côté Dolce Vita italienne avec des morceaux comme Rome ou Sicilia.
Ouais, bah c'était voulu pour le coup, tu sais Pierre et moi on vient d'Aix-en-Provence, on était dans la même classe au collège quand on avait 13 ans, et donc la Méditerranée, la Provence et même toute l'esthétique qui accompagne cette région du monde nous est chère, parce que c'est notre enfance, et on avait envie dans cet album d'essayer de le retranscrire en musique. Donc c'est pour ça qu'il y a des morceaux en espagnol, en italien, évidemment en français. Puis il y a un petit clin d'œil au Maghreb aussi avec Disco en Égypte. Voilà, on a essayé de faire un petit tour de la Méditerranée en musique et évidemment de produire un album le plus solaire, le plus gai, le plus chaleureux qui soit et qui nous rappelle voilà nos jeunes années.
D'où le rivage d'ailleurs au pluriel.
Et d'où le rivage. Ouais. L'album Rivage qui est sorti le 29 mars. Vous avez eu la gentillesse d'arriver dans le studio avec deux vinyles en disant normal. Voilà, tenez, c'est pour les auditeurs de Voltage. Donc on va vous les faire gagner. Vous allez même faire une petite signature
avec
et tout.
Plaisir. Avec
donc
plaisir.
L'album Rivage a gagné sur Voltage et que vous pouvez retrouver dans toutes les boutiques ou même en streaming et surtout sur Voltage avec Fio Maravilla. Je le rappelle, allez, on se le réécoute. Et je peux vous dire, on reçoit pas mal de messages sur le WhatsApp de Voltage. Les gens adorent ce morceau. Vraiment, ouais. vraiment.
Bah merci à eux du fond du cœur.
Bon entendeur, c'est aussi des remixes, mais aussi beaucoup de partage. Je parle bien sûr des entrevues que vous aviez fait il y a quelques années avec notamment Pierre Ninet, Frédéric Becbédé. Plus récemment aussi un feat avec Sofiane Pamar. C'est vous qui contactez les personnalités avec qui vous avez envie de collaborer ou alors c'est plus eux qui viennent vers vous, comment ça fonctionne?
Et non, ça venait des mixtapes. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque où on faisait ce concept de mixtape avec des personnalités et les entrevues qu'on a fait ensuite étaient toujours d'ailleurs liées à des mixtapes qu'on avait fait par le passé. Donc on les a recontactés en disant ça va toujours, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un morceau ensemble? Et c'est comme ça que ça s'est déroulé.
C'est vrai, c'est grâce au mixtape un peu que vous avez monté. On peut rappeler ce que c'est une mixtape pour ceux qui ne connaissent pas, du moins pour ceux peut-être qui vous découvrent.
En gros, une mixtape c'est une playlist avec des transitions entre chaque morceau qui fait que quand t'appuies sur play, t'as une heure de musique avec 10, 15, 20 titres dedans. Voilà, c'est vraiment comme une playlist Spotify avec des transis quoi.
Et c'est comme ça que Bon Entendeur a commencé. Et exactement. Là vous vous retrouvez en radio avec nous sur Voltage avec une tournée. Aussi, ouais. Une grande tournée qui va commencer. Vous avez commencé avec deux dates à l'Olympia et là vous partez pour les festivals. Versailles Vitro, les Eurocaennes, les Vieilles Charrues et j'en passe. Comment on prépare une tournée?
Nous concernant, on a commencé par la préparer en créant un album, donc en créant Rivage, et ensuite on s'est enfermé pendant des dizaines de semaines en résidence pour rééditer nos morceaux, donc rééditer notre catalogue. Hein, donc on a refait des versions du Temps est bon, de l'amour, de la Roua et j'en passe. Et puis après, on a essayé de construire une scénographie autour de tous ces morceaux qu'on veut jouer en live. Donc là, en général, en festival, c'est sur un format d'une heure. On a une immense scénographie derrière nous avec et on a fait un partenariat avec Lina, donc il y a des images d'archives. Il y a évidemment beaucoup de jeux de lumière écoute, c'est assez cool, on est assez content de cette scéno, on trouve que c'est très abouti et on est très fiers de pouvoir défendre cette magnifique scénographie et cet album un peu partout en France et à l'étranger sur l'été.
Quand vous créez, là tu parlais de d'abord vous créez l'album et après la scénographie, mais est-ce que ça vous arrive de penser d'abord à un tableau? Ça, j'aimerais bien que sur scène on ressente ça et après le morceau arrive.
On avait des idées globales, on avait des idées même de scéno tout à fait avant d'avoir fini l'album. Il y en a qu'on a gardé, d'autres qu'on n'a pas gardé parce qu'au final c'était du hors sujet. Mais en fait on avait, dès le début en fait, quand tu définis même si ça a bien évolué, une direction dans laquelle tu veux aller pour ton album, des messages que tu veux véhiculer, une imaginaire que tu veux créer chez les gens. Là, tu parlais de Méditerranée, de voyage, c'est exactement ce qu'on voulait faire, hein, littéralement dès le début. On s'est dit, bon, qu'est-ce que ça pourrait nous évoquer pour une scénographie? Et on avançait en parallèle sur, d'une certaine manière, la création de la scéno et de l'autre, la création de l'album. Après, au final, il y a plein d'idées que tu dois jeter parce que quand entre le début de l'album, comme dit Arnaud, avec 100 maquettes que t'affines et l'objet final, t'as plein d'idées de scéno que t'as eues qui sont complètement hors sujet, donc tu dis bon vas-y, ça on zappe, et ça on va encore plus loin dans l'idée quoi.
Donc si vous voulez aller applaudir Bon Entendeur, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur leur site ou même sur voltage.fr, on va vous montrer toute la tournée qui passe peut-être par chez vous, en festival, mais aussi à l'étranger, j'ai vu. Il y a des dates aussi à Amsterdam, il y en a à Québec.
Ouais, Amsterdam, Londres. Québec, Londres.
Londres aussi.
Ouais. C'est cool là-bas.
C'est beau, hein. Franchement, ça fait plaisir. Cet album, donc Rivage, sorti le 29 mars.
C'est ça.
Est-ce que vous avez un morceau préféré parmi cet album? Un morceau un petit peu coup de cœur chacun? Peut-être le même, peut-être différent?
Ouais, non, on n'a pas le même. On a chacun qui se... Je commence?
Vas-y.
Moi, c'est Sur le Tempo, avec Mao, une chanteuse lyonnaise avec qui on avait déjà travaillé, que j'adore. Et Sur le Tempo, il me fait un drôle d'effet. Il m'ensorcelle un peu, ce morceau. Quand je l'écoute, après, je l'ai en tête pendant des jours et des jours. Il est bizarre. Il me crée un truc. C'est comme s'il m'hypnotisait un peu. Tu vois, tu l'écoutes. Je veux pas que quelqu'un me parle. Je veux juste le mettre en entier et me laisser porter. J'imagine plein de choses. Donc, il me fait un drôle d'effet. J'adore ce morceau.
Ouais, en fait, ça fait des espèces de vagues. Tu sais, c'est très calme. Ouais. Et puis, d'un coup, ça part
très onirique. T'as l'impression d'être dans un dessin animé. animé que tu te crées toi-même, c'est trop cool.
C'est marrant que tu dis ça parce que quand j'ai écouté l'album, vraiment dès qu'il est sorti, ce morceau-là j'ai beaucoup aimé et direct je suis allé voir sur internet Mao, je ne connais pas, donc je suis allé voir ce qu'elle faisait.
Et franchement,
ça m'a vraiment donné envie et en effet je suis d'accord avec ce morceau. Arnaud,
écoute, moi je Valparaiso me fait quelque chose en particulier et tu sais là du coup j'ai les yeux sur l'album. Et je trouve que cette photo de quatrième couverture de l'album représente assez bien ce que me procure ce morceau, tu vois.
Ouais. Ah, je suis d'accord.
C'est quelque chose de fin de journée, un peu calme au bord de la mer, et voilà, moi c'est un morceau qui m'apaise.
C'est ça sur la photo, donc on voit un espèce de coucher de soleil au bord de la mer, comme tu disais, qui est un soleil qui arrive derrière.
Exactement.
Une montagne. C'est totalement ça, bon entendeur. Bon entendeur, vous allez prendre les platines dans quelques minutes sur Voltage. Avant ça, on a une tradition ici dans le warm-up. Ah. On termine toujours par des questions, mais pas n'importe lesquelles.
Oh.
J'ai trouvé sur internet les 50 questions les plus posées pour un premier rendez-vous, parce que oui, c'est la première fois que vous venez nous voir
mal,
ici.
Okay.
Donc je les ai, elles sont numérotées de 1 à 50. Du coup, si vous avez envie d'y répondre,
avec plaisir, vous avez 3-4 heures.
Non, mais vas-y, vous verrez ce jeu, on l'a déjà fait avec d'autres invités. On s'y prend tellement au jeu qu'après on dit waouh, il va falloir qu'on arrête quand même.
T'inquiète, let's go, on est chaud.
On y va, donc je les ai sous les yeux.
On s'en fait une chacun, Pierre, comme ça il n'y a pas de.
Allez, vas-y. Vous me donnez un numéro entre 1 et 50.
13.
Ouh.
Yes,
vous répondez chacun.
Ok, vas-y.
Vous recevez des invités ce soir. C'est quoi la recette pour les impressionner? Votre recette, c'est la vôtre.
Ce soir, parce que ça dépend de la saison, beaucoup. C'est important.
Alors en général.
Ok.
Bah vas-y, je fais l'hiver ou l'été, peu importe.
Écoute-moi, si c'est en hiver, je ferai certainement un parmentier de confit de canard.
Waouh.
Ouais, mon gars.
Parmentier, c'est toi qui fais, hein?
Bien sûr.
Cuisto un peu?
Ouais. Ouais, ah ouais, mais tous les deux en cuisine.
Ouais. Ok.
Et l'hiver, je préfère les plats d'été, c'est plus léger, mais l'hiver, je suis plus inspiré. Un petit truc mijoté, j'adore ça. Tu sais, dans du vin rouge.
Un genre bourguignon.
Une de bœuf avec une purée faite maison,
c'est
un peu de beurre.
Ça.
Ouais, et c'est vrai. Tu mets le beurre, tu fais un petit trou, tu mets le bouillon dedans avec le truc.
Bah voilà, vendredi soir, là, tu viens de me donner envie.
Va falloir
qu'on se fasse une bouffe, les gars.
Avec plaisir.
On va se voir, je passerai vous voir en tournée, on essaiera de faire un bœuf bourguignon en plein été, ça va être beau. Une autre question, je vous laisse choisir un numéro.
La 8.
C'était quoi votre matière scolaire préférée? Un petit peu plus détendue, celle-là.
Le sport.
Sport.
Ouais. Je crois que l'histoire, j'aimais bien. Histoire géo.
Je crois que l'histoire, j'aimais bien.
Non, mais en fait, je te dis, je crois, je vais être franc avec toi, parce que maintenant, j'adore ça. Je me perds sur des reportages Arte et tout, j'adore. Et je me dis, est-ce qu'à l'époque, j'aimais autant, ou est-ce que c'est mieux avec le temps? Je crois quand même que j'étais un peu prédisposé à m'intéresser à ça. Après, c'est vrai que j'étais pas un grand scolaire, hein, pour être tout à fait honnête avec toi, donc peut-être que le côté prof et tout, ça me saoulait. On était un peu deux cancres, hein. Ouais, mais même pas cancres, mais on était juste pas fait pour les cours, je crois, hein.
Est-ce qu'à cette époque-là, déjà, vous étiez un peu musique?
Ouais, complètement.
Carrément, ouais.
Bon, écoute, moi je faisais du piano petit et surtout j'écoutais énormément de musique. J'avais une passion de découvrir la musique, tu vois, donc j'étais tombé sur des discographies assez jeunes et je me passionnais pour les Rolling Stones par exemple quand j'étais j'avais 14 ans quoi.
Et vous commenciez déjà à vous dire tiens, j'aimerais bien faire des mix, je me verrais bien sur une scène, sortir des albums.
Ouais, je me revois avant même que Bandtender existe, me faire des transits sur Virtual DJ avec ma souris, me dire ça y est, je suis un DJ.
Virtual DJ, si vous connaissez pas, on rappelle, c'est un logiciel, c'était gratuit à l'époque,
ouais,
il me semble,
crois.
Où il y avait A et B et on passait d'un morceau à l'autre, il y avait des effets aussi des pitchs, c'est trop bien de faire ça.
Très
marrant.
Ça tout le temps. Ouais.
Très marrant. Une dernière question pour notre.
Ça va votre. La 49,
trop chaud, on peut en faire 10 encore. Le premier date se passe bien.
Le premier date se passe bien. La question numéro 49.
La 49. Ouh. Comment. On parlait justement de comment vous étiez à l'école, déjà si vous pensiez à la musique, mais là, la question est comment vous voyez dans 10 ans?
Ah, alors c'est marrant que tu poses cette question parce que c'est une question qu'on posait l'inverse dans toutes nos interviews dans le cadre de nos mixtapes. On disait, si tu pouvais te parler au toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu dirais, tu vois? Alors, où est-ce qu'on se voit dans 10 ans?
Là, dans 10 ans, est-ce que vous avez peut-être prévu quelque chose? Est-ce que vous voyez encore faire des concerts? Ou alors arrêter? C'est vrai que Calvin Harris, j'y repense, avait fait il y a pas longtemps une déclaration comme quoi, à partir de 50 ans, je crois, ou dans 10 ans,
il arrête.
Il arrêtait la scène et les albums, mais il restait dans la musique, peut-être en tant que producteur.
Ok.
Et dans la prod. Est-ce que vous, c'est le cas ou?
Je sais pas si j'aurais envie encore de faire des. Je pourrais pas arrêter de jouer, ça te manque trop. T'as beau dire, ah, je disais, bon, j'en ai marre au bout de 3 semaines. T'as qu'une envie, c'est de remonter sur scène. Après, enchaîner des tournées comme on a pu faire de 15-20 notes d'affilée, quand t'as 40-50 ans, je sais pas si j'aurai encore l'énergie. Donc, jouer encore avec plaisir, sortir des albums, pourquoi pas, mais peut-être pas avec la même intensité, en tout cas me concernant. Ouais, écoute, je suis totalement d'accord avec la réponse de Pierre.
C'est beau.
Je me range derrière. peut-être une dernière question. J'aime bien ce jeu.
Tu veux en faire une dernière? Avec plaisir, allez-y. Je vous laisse me dire un dernier numéro.
Je suis pas à la 6.
La 6.
Ça change.
Oh.
Elle est pas rigolote, allez, si
on change. On peut la faire si vous voulez.
Non, vas-y, si on a une dernière chance, on va pas la gâcher. Vas-y. On va dire un truc au hasard, genre la 29.
La 29. Quel super pouvoir vous aimeriez avoir si vous étiez un super héros?
Téléportation.
Ah. Téléportation, tu claques des doigts, t'es quelque part.
Ouais, mais t'avais un film là-dessus, non? Avec, je sais plus comment il s'appelait. Tu sais, tu claques des doigts, boum, t'arrives en haut d'une pyramide, tu claques des doigts, boum,
bah,
t'arrives
en haut. C'est pas le transporteur ou un truc comme ça? Il y avait... Je crois que c'est le
mec évidemment il commence à braquer des banques.
Ouais, c'est ça, c'est le, okay. C'est le transporteur.
Bah voilà, du coup ça j'aimerais bien. Tu sais, on part en voyage chérie, t'as pas oublié valise, pac, tu claques dedans, t'arrives en plaqueur de Kyoto.
T'as envie d'aller manger une pizza en Sicile, paf, t'arrives là-bas.
Moi je changerais se déplacer dans le temps, tu vois.
Juste reviens dans le temps, voir comment ça se passait.
Fixer les problèmes, tu vois, tu dis merde, j'ai fait une connerie, hop, tu vois,
tu changerais carrément. Mais juste par curiosité, aller voir comment ça se passait.
T'imagines? Il y a un petit Allemand qui va faire bordel dans les années
40. T'imagines?
C'est lui, c'est quel?
Tu vois? Tu vas tuer Hitler, t'imagines?
Bon entendeur était avec nous sur Voltage. Pierre et Arnaud, merci beaucoup d'être passés. On va vous laisser les clés de la maison, le warm-up Voltage. Allez, on termite la semaine tranquillement. Les platites sont là. On vous laisse gérer, on vous laisse nous régaler. Et puis, vous pourrez retrouver l'album de Bon Entendeur qui est sorti le 29 mars. Et on vous le fait gagner aussi sur Voltage. Donc, restez bien connectés sur voltage.fr. Merci les gars.
Merci à toi, c'était trop cool.
Tous les vendredis, dès 18h30, c'est le warm-up avec Robin sur Voltage.
Je suis heureuse de vous faire découvrir toutes ces interviews, ces reportages, en version longue sur Voltage. Et c'est loin d'être fini. Écoutez.
Le warm-up avec Robin sur Voltage. Dance Music.
Mais quel plaisir de le recevoir ici dans le warm-up Voltage. Depuis le temps qu'on voulait t'inviter, franchement c'est un pur kiff. Bien évidemment, il est venu avec ses lunettes blanches. Epsilon est mon invité sur Voltage. Comment ça va Epsilon?
Yo, bah ça va super et toi?
Bah très bien, moi ça nous fait extrêmement plaisir de terminer la semaine tranquillement avec toi et en musique. Tu prendras les platines tout à l'heure.
Ouais.
Petite piqûre de rappel, cours de rattrapage, Epsilon c'est ça.
What do you mean about
Epsilon?
Des tubes déjà.
Waouh, mais c'est un magnifique mashup que
c'est
vous
vrai,
avez fait là.
Mais à chaque fois, tout le monde nous dit ça. C'est Bess, notre producteur, qui s'occupe de ça. On lui a dit, Bess, on reçoit Epsilon. Fais-toi plaisir. Bah voilà, je crois que.
Bravo Bess. C'était super.
Bon, comment ça va Epsilon? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que t'es heureux?
Bah, je suis très heureux. Merci de me recevoir. C'est adorable.
Les beaux jours reviennent. On va te voir aussi sur scène. On va en reparler tout à l'heure. Et puis que serait Epsilon sans ses lunettes blanches et ce look bien propre à toi? D'ailleurs, pourquoi ce look?
Les lunettes blanches ou le look? Pur beau gosse.
Alors le pur beau gosse, on peut en parler aussi. Les lunettes blanches de base, parce que c'est vrai que c'est ta marque de fabrique, on peut dire.
Oui. Bah les lunettes blanches, en fait, de base c'était pas du tout calculé. Je cherchais un peu des lunettes un peu what the fuck, mais stylées quand même. Ouais. Et surtout que personne n'avait. Et du coup c'était les lunettes blanches que j'ai. Et maintenant c'est ma collab qui va être mise en vente bientôt avec Amaury. Qui est un lunetier super talentueux. Et donc du coup celle que tu vois là.
Donc c'est à dire que très bientôt tout le monde pourra avoir les lunettes blanches d'Epsilon.
Oui, même toi tu pourras les avoir.
Avec plaisir. Alors là ça sera un plaisir. C'est toi, je sais que t'aimes bien jouer un petit peu un personnage un peu rigolo et tout. Je me demandais si c'était un personnage que tu jouais ou alors si c'est vraiment toi, si dans la vraie vie t'es comme ça aussi.
Non, je suis un peu rigolo, j'aime bien faire de l'humour.
Et puis un pur beau gosse aussi.
Oui, c'est gentil, merci.
Epsilon, c'est fou quand même parce que tes musiques elles ont quand même. J'ai l'impression qu'il y a plein de styles différents. Un coup c'est électro, un petit peu funk, un petit peu disco. Comment toi tu décris ton style musical?
Je pense que c'est French Touch. Un peu de nouvelle French Touch je dirais.
2.0.
Ouais un peu.
C'est exactement ce que je voulais te demander. Ouais. Est-ce que tu te qualifierais justement de, tu fais partie de la French Touch 2.0?
Bah après je vais pas non plus m'auto-qualifier.
On est entre nous, on est entre nous, dis ce que tu penses, t'inquiète.
Non mais je trouve que c'est, ça qualifie bien. Après je laisse les journalistes et les intervieweurs comme toi me le dire, tu
moi,
vois.
Moi je ne suis qu'une simple personne, je ne suis pas un intervieweur.
Non.
Ça fait penser un petit peu à, au début de Martin Solveig, tu sais, on parlait de ton look tout à l'heure, à l'époque de Jalousy ou de
Eo, ouais,
tu sais, ce côté un peu décalé aller dans les clips sur scène avec un look, c'est ça fait partie de tes inspires?
Ouais carrément, bah j'ai grandi avec avec lui hein, clairement. Bah le côté un peu décalé mais en même temps très bon DJ, bon producteur, très bon producteur, ça fait partie de mes inspires avec Bob Sinclair, Daft Punk, Justice, Headbanger, tout ça.
Epsilon, bon je l'ai mis tout à l'heure mais pour le plaisir on le remet.
Ouais, l'histoire est folle de cette track.
Un remix qui a cartonné, c'est celui de Mylène Farmer. Les auditeurs de Voltage kiffent ce morceau, je te le dis.
C'est vrai?
Moi aussi je le kiffe.
Cool.
Et on a Karine, qui est une auditrice de Voltage, qui nous écrit à chaque fois qu'elle entend ce morceau. Elle nous écrit sur WhatsApp.
C'est fou.
Et quand je lui ai dit qu'on allait te recevoir, elle a voulu absolument te laisser un message.
Oh, wow.
Coucou Epsilon, c'est Karine, une grande fervente de ta musique et de la radio Voltage. J'aimerais savoir le déclencheur qui a fait que tu te rapproches de Mylène Farmer, parce que je trouve que c'est magnifique ce que tu as fait et ça m'intrigue. À bientôt, bonne continuation, gros bisous.
Elle t'aime beaucoup Karine.
C'est adorable Karine, gros bisous Karine.
Alors explique-nous l'histoire de ce morceau avec Mylène Farmer.
Bah le remix je l'ai fait pendant le confinement, dis-toi, donc ça fait bien 4-5 ans.
Ouais.
Et en fait je voulais faire des remixes de sons que j'aimais bien en français et le désenchanter, genre je kiffais en fait le son de base, bah il est quand même mythique. Et en fait je me dis mais attends mais c'est fou, y a aucun remix de ce son. Et je pense que les jeunes ils pourraient grave kiffer. Et du coup bah j'ai fait le remix de Mylène. Et sur Insta mon réel que j'ai fait avec Mylène où j'ai fait un tuto sur ce morceau là et ben il a grave marché aussi. En fait les gens ils l'ont découvert via Insta, via les réseaux sociaux, via bah du coup Voltage, via les
et
gens
après,
qui ont passé.
Ça a cartonné, maintenant ça fait partie des classiques d'Epsilon. Mylène Farmer désenchantée, on ne s'en lasse pas, je te le dis.
Non mais c'est fou parce que avec cette track ça m'arrive très souvent, je vais dans un taxi ou dans un Uber et j'entends désenchanté mon remix. Et je me dis mais c'est fou, c'est incroyable.
Et c'est Voltage que
c'est Voltage.
Le taxi ou le Uber.
À chaque fois c'est Voltage.
Ah bah ça fait bah c'est normal Epsilon, c'est pour ça que ça fait vraiment plaisir de recevoir ici. Epsilon, tu fais partie du Club Azur avec Kungs. D'ailleurs, mais justement, je suis sûr que parmi les auditeurs de Voltage, il y a des gens qui nous écoutent là, peut-être dans leur voiture, ils ne savent pas ce que c'est le Club Azur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Alors de base, c'est un live créé par Kungs et son meilleur pote Victor pendant le confinement, où ils faisaient des DJ sets en direct sur Insta.
Ouais.
Ensuite, c'est devenu des vraies soirées. Donc moi, je suis arrivé un peu après. Et après, donc là, c'est en train de devenir. Enfin, c'est déjà en train de devenir un label.
Et donc, tu
là,
fais
je t'ai partie... résumé en peu de temps, mais ça,
non, mais
c'est sur 5 ans quasiment.
C'est vrai, c'est sur 5 ans, mais au moins c'est clair parce que
4,
c'est vrai
5 ans,
que tout le monde ne s'y connaît pas forcément en musique et c'est bien de savoir ce qu'est. Donc c'est un collectif qui a été créé pendant le confinement et qui maintenant devient un label.
Oui.
Un label rapidement, qu'est-ce que c'est pour les gens?
Bah un label, en fait, c'est une marque. Qui permet de sortir des tracks de différents artistes. Donc par exemple Ipsy Love, il est sorti sur Club Azur. Et du coup bah Club Azur va distribuer partout sur toutes les plateformes Ipsy Love.
Bah, c'est bien, un petit cours de technique comme ça fait plaisir. Comment on fait partie du Club Azur? Par exemple moi si je mixe un peu je peux venir.
Ouais, bah si tu veux tu m'invites au resto. Ensuite tu me payes un ordi.
Ça va. Ça c'est bon. Enfin l'ordi on verra, mais le resto déjà on peut y aller. Non, en vrai c'est spécial. Enfin c'est vraiment une bande de potes à la base et des gens qui arrivent.
Ouais, après maintenant c'est en train de s'ouvrir hein, vu que c'est devenu un label, donc en fait faut envoyer ces morceaux sur le mail et bah en fait ils écoutent tout et bah s'ils aiment bien je pense qu'ils vont signer.
J'ai pas eu encore la chance de te voir sur scène.
C'est vrai?
Ouais.
Mais
par contre je sais que c'est une dinguerie, c'est une folie. J'ai des potes qui sont qui t'ont vu l'année dernière au Versailles Electro. Enfin, malheureusement j'ai pas pu y aller, c'était dingue, il y avait 20 000 personnes à peu près.
Un truc. 19 000, c'était fou.
C'est un truc comme ça. Il y a une différence de mixer devant énormément de personnes, contrairement à une boîte de nuit avec très peu de monde, un petit peu plus de proximité.
Ouais, il y a quand même une différence. Bah mixer devant énormément de gens, en fait paradoxalement, il y a une sorte de distance qui se crée parce qu'on est un peu loin. Enfin c'est stressant mais on se rend pas compte.
Ouais, c'est une marée humaine
quand
en face de
toi. En fait on se rend moins compte. Après quand t'arrives dans un club où c'est vraiment il y a une sorte de côté un peu plus arène, où les gens sont très proches, c'est un autre feeling parce que bah tu vas plus communiquer avec les gens un peu plus de manière spontanée. Limite, tu peux leur serrer la main, tu vois. Bon, en exagérant.
Tu préfères ?
Non, j'aime bien les deux. Même de plus en plus les festivals, je crois.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va te voir cet été au Cocorico Electro, oui, au château de la Ferté-Saint-Aubin, le 12, 13 et 14 juillet. Comment on, oui, prépare un show en festival ?
D'ailleurs, il y a mes parents qui viennent à cette date.
C'est vrai ?
Oui.
Eh ben, si vous voulez voir Epsilon et les parents,
voilà,
d'Epsilon,
si vous voulez voir mes parents, venez.
Rendez-vous 12, 13, 14 juillet au Cocorico Electro. Comment tu prépares un show, un live en festival ?
En fait, c'est, effectivement, là, ça revient un peu avec ta question d'avant. C'est un peu différent la préparation d'un set en club et d'un set en festival. Un festival, ça va être des timings assez courts en général, c'est une heure et demie de set. Alors qu'en club, tu peux pousser jusqu'à deux heures, trois heures de set. Un festival, en fait, ça dépend de ton horaire, ça dépend comment t'es placé dans le festival. Mais moi, j'aime bien quand même préparer mes edits, des nouveaux remix, même des mashups, des enchaînements. J'aime bien quand même préparer un sorte de show, en fait. Comme, wow, si c'était un live set, en fait. Même plus un DJ set, c'est carrément
c'est un live. C'est un live, spectacle.
Ouais, c'est un show. Et je trouve que ça s'y prête bien. Et bah, comme ce que faisait Justice ou Daft Punk à l'époque, en fait, c'était même pas des DJ sets, c'était des lives où ils remixaient leurs tracks dans tous les sens, ils faisaient des mashups, ils enchaînaient avec d'autres trucs. Et ça, c'est ce qui m'inspire le plus pour les festivals. Et après, on peut aussi adapter en fonction du public. On peut ressentir un peu la vibe et réajuster un peu en fonction de l'ambiance. Si je vois qu'il y a une track qui marche un peu moins bien ou que c'est pas la vibe, c'est pas le moment, bah je vais pas la mettre.
Tu t'autorises à un changement direct.
Ouais, ouais, carrément. Il faut improviser aussi parce que c'est le principe du DJ, en fait.
Epsilon, avant que tu prennes les platines, c'est la première fois que tu passes nous voir ici dans les studios.
Oui.
C'est en quelque sorte un premier rendez-vous, oui, si je puis dire. Du coup, j'ai trouvé sur internet les 50 questions les plus posées, okay, pour un premier rendez-vous. Je les ai sous les yeux. Il, mm-hmm, y a de tout comme questions, des un petit peu plus farfelues comme des, ouais, un peu plus débiles. De, okay, 1 à 50 à 100 numérotés, je vais te demander d'en choisir 3 et je vais te les poser.
Ok, 35.
Epsilon, c'est quoi ta morning routine ?
Alors, ma morning routine, si tu veux tout savoir, je me réveille, je prends ma douche. J'aime bien aller courir maintenant le matin. Revenir prendre ma douche, mettre du sérum sur ma peau parce que pour avoir une peau de bébé. Ensuite.
C'est vrai que t'as une très belle peau.
Merci.
Et c'est exactement ce que j'ai dit quand t'es arrivé.
Eh ben, souvent on me dit que j'ai une peau de bébé.
Ben, je trouve. Aussi.
C'est gentil, c'est adorable.
Il est trop bien ce premier rendez-vous.
Attends, j'ai pas fini. Ensuite,
pardon, vas-y, vas-y.
Je mets une crème hydratante sur la peau.
D'accord.
Un petit coup de déo et puis voilà, on est parti pour la journée.
C'est parti.
Un, nickel, petit coup de parfum aussi histoire de sentir bon.
Bah tu sens très bon, c'est exactement ce que j'ai dit aussi. Décidément, tout se passe tellement bien.
On va aller boire un verre après. Hein.
Deuxième question, parmi les 50 questions les plus posées lors d'un premier rendez-vous, je te laisse choisir, c'est numéroté.
42.
La 42. Oh, Epsilon, es-tu un psychopathe ?
Alors
si tu veux, j'ai la définition du psychopathe.
Ok.
La psychopathie est un trouble de la personnalité caractérisé par des désordres émotionnels et des comportements antisociaux.
Ok.
Est-ce que tu es
antisocial,
psychopathe?
Je pense pas. J'ai l'impression d'être plutôt quelqu'un de social. J'aime bien parler aux gens. Genre là, j'aime bien te parler. Tu vois, genre.
C'est moi aussi, j'aime bien te parler.
Non, en vrai, je crois pas être un psychopathe.
Bon ben, nous voilà rassurés.
Oui.
C'est bon, on va pouvoir venir te voir en concert. Ça c'est nickel. Une dernière question, Epsilon.
15.
La 15. Quel a été ton pire rendez-vous galant, enfin le pire rendez-vous galant que t'es vécu?
Pire rendez-vous galant, je pense c'est un rendez-vous où j'ai tout donné et vraiment. Et le lendemain, la personne elle m'a plus jamais répondu.
Mais voilà. Je crois qu'on a eu le même rendez-vous à Epsilon et je pense que vous aussi dans votre voiture, vous savez ce que c'est.
C'est horrible. À grand plaisir.
On en a appris beaucoup plus, on va pouvoir faire ce petit rendez-vous. En tout cas, ton dernier morceau, ton dernier single.